France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et c'est la suite de ce 7-9 spécial avec Léa Salamé. Nous recevons ce matin, dans le premier grand entretien, la porte-parole du gouvernement. Bonjour Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous au lendemain du premier tour de ces élections municipales. Beaucoup de médecins ont jugé incompréhensible la décision de maintenir cette élection. Est-ce que vous regrettez ce matin d'avoir organisé ce premier tour ?
Non, pas du tout. Nous ne le regrettons absolument pas. D'abord parce que c'est un moment démocratique qui s'est bien passé. Et lorsqu'on voit la manière dont les consignes sanitaires dans les bureaux de vote, j'ai moi-même voté à Paris, ont été observées, on peut être fier à la fois de la présence de tous les assesseurs, les présidents des bureaux de vote, mais aussi de la qualité de l'organisation de ce scrutin. Je veux rappeler également que les mesures que nous avons prises, le fait de maintenir ce scrutin, ont été prises toujours avec l'approbation du conseil scientifique qui se réunit autour du président de la République et qui conseille aujourd'hui le gouvernement, et que nous n'avons évidemment pris aucune décision qui puisse mettre en danger la vie des Français.
Sibeth Ndiaye, beaucoup de gens s'interrogent sur ce conseil scientifique. Les Verts notamment vous demandent de rendre public les avis du conseil. Est-ce que vous le ferez ?
Oui, bien sûr, nous n'avons jamais hésité à avoir de la transparence depuis le début de cette crise. Je crois aussi, si je me souviens bien, que le professeur Delfrécy, qui anime ce comité scientifique, était aux côtés du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours encore, pour expliquer en quoi l'utilisation des mesures barrières permettait de réaliser ce scrutin en toute confiance et en toute sécurité.
Et que disent les scientifiques ce matin ? Quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner ? Pour le second tour, est-ce que vous êtes aussi confiante que vous l'êtes sur le premier ? Est-ce que ce second tour va être maintenu ?
Eh bien écoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question car je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas modélisatrice. Ce qui compte, c'est que systématiquement, les décisions que nous prenons, ce sont des décisions qui sont étayées scientifiquement. Comme le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, nous consulterons à nouveau le Conseil scientifique, évidemment également les différents partis politiques de France, pour voir comment nous devons organiser les élections et le second tour. Je crois aussi qu'il est important de dire que la situation de l'épidémie se dégrade, que les choses s'accélèrent. Je crois que vous receviez le
Jérôme
Salomon
ouais.
Tout à l'heure, et l'on voit bien que malheureusement, au fond, la conscience, la prise de conscience dans la société française de la difficulté, du danger face auquel nous sommes, parce qu'il est invisible, n'est pas encore au rendez-vous. Et si nous devions prendre des mesures supplémentaires pour que cela imprime davantage dans le comportement de nos concitoyens, je crois que nous n'hésiterons pas à le faire.
Vous allez le faire ?
Eh bien écoutez, on vous l'a toujours dit, les décisions que nous prenons, elles doivent être étayées scientifiquement. Donc nous consulterons ceux qui jusqu'à maintenant nous ont conseillés et qui eux-mêmes travaillent par une forme de consensus. C'est ce qu'on fait en science. On peut ne pas être d'accord auprès d'un groupe de scientifiques. On discute, on en tire une solution qui a l'aval de la communauté. Et à partir de là, ils nous conseillent et nous prenons les décisions qui s'imposent.
Marine Le Pen a répété hier soir ce qu'elle demande depuis 3 semaines maintenant, à savoir la fermeture des frontières. Faut-il, selon vous, le faire ?
Eh bien, écoutez, le président de la République lui-même, il y a quelques jours, a indiqué, a demandé auprès de l'Union européenne que nous puissions regarder comment est-ce que aux frontières de l'espace Schengen ou de l'Union européenne, nous puissions avoir un contrôle de nos frontières. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne est un espace dans lequel nous circulons aujourd'hui librement. Si nous devons apporter des restrictions, ces restrictions, elles doivent être concertées. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec l'Allemagne, puisque désormais, pour faire en sorte que seuls les déplacements indispensables des frontaliers, du transport de marchandises soient effectués entre la France et l'Allemagne, nous avons des points de contrôle terrestres qui ont lieu de part et d'autre de la frontière franco-allemande.
Est-ce qu'on n'a pas tardé à mettre en place ces points de contrôle terrestres et ces points de contrôle à la frontière au début de la crise, il y a 2 ou 3 semaines, vous rejetiez cette idée-là avec virulence ?
Mais je ne crois pas du tout. Ce que nous le faisons en fonction de l'évolution de nos connaissances. Vous savez, un virus ne s'arrête pas aux frontières parce qu'il n'est pas conscient de ces frontières-là. Un virus, il est transporté avec les êtres humains. Et ce qui aujourd'hui nous pose problème, beaucoup plus profondément que le sujet de la fermeture des frontières, c'est le fait qu'au square en bas de chez moi, on est des dizaines d'enfants qui jouent sur les mêmes toboggans, qui touchent les mêmes ballons, avec les parents serrés comme des saucisses sur les bancs du square.
Mais justement, sur le square, Sibeth Ndiaye, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les instructions que vous donnez? C'est la question que je posais à Jérôme Salomon, que se posent beaucoup de Français,
de parents qui ont
leurs enfants. Certains vous disent, ils sont comme des lions en cage si on ne les sort pas, donc ils les sortent, ils les emmènent au square. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, notamment en zone urbaine?
Il faut bien comprendre, au fond, quel est ce que nous recherchons. Nous cherchons à limiter les contacts entre les individus parce que nous savons que chaque personne qui est infectée, y compris sans le savoir, peut en moyenne diffuser le virus à 3 autres personnes. Donc on ne va pas dire aux gens de ne pas sortir leurs enfants. J'en ai 3, ils sont plutôt petits et je vois bien comment ça peut vite être un casse-tête à la maison. Mais on peut faire de la trottinette sur les trottoirs, on peut faire du vélo, on peut, quand on est dans la ruralité, se promener dans la campagne. On n'est pas obligé d'avoir des sports collectifs et de jouer au ballon avec les enfants du voisin. C'est ce que nous disons. Il faut limiter les contacts sociaux, mais oui, on peut sortir parce qu'on est bien conscient, évidemment, que c'est difficile de conserver les enfants à la maison.
Dernière question sur le coronavirus à proprement dit. Vous le dites, et Jérôme Salomon l'a constaté, les mesures de confinement ne sont pas suffisamment respectées par les Français. Alors, il y a des rumeurs qui circulent. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont des rumeurs ou des informations? On parle notamment de l'armée qui serait mise en place, à qui on demanderait de venir surveiller les mesures, de faire respecter les mesures de confinement. L'armée en Ile-de-France, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Alors, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. J'ai vu celle-ci en particulier sur le fameux décret confinement qui interviendrait. D'ailleurs, on nous le prédisait dès hier soir sur un certain nombre de boucles WhatsApp. Vous avez constaté qu'il n'en était rien. Il faut prendre les choses.
Il n'en est rien à 7h, mais est-ce que c'est une fake news ou est-ce que c'est une hypothèse? Cet essor de décret
était une fake news, je peux vous le
dire.
Il n'en demeure pas moins que nous examinerons toutes les mesures qui peuvent être utiles pour faire en sorte de modifier en profondeur les comportements. Moi, je regarde ce qui se passe en Italie, qui a été frappée de plein fouet. Je constate que les gens font leur marché, mais en respectant des bouts de scotch sur le sol qui mettent un mètre de distance entre les individus. Nous devons collectivement et individuellement avoir la force
on pourrait passer à quelque chose de plus serré, si j'ose dire, demain ou après-demain.
Eh bien, écoutez,
c'est sur la table.
Ça n'est pas à moi de le dire, c'est au Premier ministre et au Président de la République, en fonction des avis scientifiques que nous aurons. On regarde avec beaucoup d'attention l'évolution de la courbe. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent dans les hôpitaux, y compris des personnes jeunes, des personnes qui sont dans un état grave. Et je lance véritablement un appel à la conscience civique individuelle. Protégez les autres, restez chez vous.
L'armée, fake news alors ou pas, le déploiement de l'armée?
Écoutez, je n'ai pas connaissance d'un déploiement de cette nature, mais vous le savez, dans les rues de beaucoup de villes de France, il y a l'opération Sentinelle qui est déployée depuis des années maintenant et qui sert aussi à nous protéger.
Sibeth Ndiaye, vous avez maintenu ces élections hier. On peut en conséquence vous demander de tirer un premier enseignement des résultats du premier tour. Toutes les analyses disent qu'il y a eu un vote sanction à l'égard du gouvernement. Est-ce que vous le reconnaissez ce matin? Un vote sanction à l'égard de la majorité.
Je ne suis pas tout à fait certaine qu'on puisse le dire, puisque on peut voir qu'il y a des ministres qui ont été élus, des ministres du gouvernement qui ont été élus au premier tour. Je pense à Franck Riester, je pense à Gérald Darmanin, je pense à Sébastien Lecornu. Je vois que le Premier ministre également est en bonne position dans un certain...
Le Premier ministre est en tête avec autour de 43%, le candidat communiste fait un très bon score et le Premier ministre a moins de réserves de voix pour le second tour que le candidat de gauche.
Eh bien, écoutez, nous le verrons. Une campagne, elle n'est pas gagnée ni perdue tant qu'elle n'a pas été menée. Évidemment, nous étions extrêmement lucides vis-à-vis de ces élections. Nous n'avons jamais prétendu que ce serait le grand chelem de la majorité. C'est un moment pour nous de développement de notre implantation locale. Il y a évidemment des endroits où il y a des déceptions, puisque nous comptions sur des candidats où il y avait de très belles campagnes qui étaient menées. Je pense par exemple à Metz avec Richard Liogé. Mais on voit aussi une majorité qui s'ancre avec des maires issus de la gauche. Je pense à Dunkerque, à Waterloo, à Nevers, où nous avons des maires qui sont réélus alors que nous les soutenions et qui venaient de la gauche. Je pense aussi à Valenciennes, à Vesoul, en Marc-en-Barœul, où des maires issus de la droite et que nous soutenions ont été aussi réélus.
Ce
que je constate surtout, c'est qu'il y a beaucoup une prime aux sortants, pour employer cette expression consacrée.
Dernière question sur les municipales. Dans plusieurs villes où Emmanuel Macron avait fait ses plus gros scores à la présidentielle et aux législatives, Paris, l'ouest de la France, Nantes, Rennes, même Lyon, place forte du macronisme, vos candidats arrivent en troisième ou en quatrième position. Comment vous expliquez cela ?
On a là
rapidement, s'il vous plaît.
On a des élections qui sont locales, avec la nécessité d'avoir une implantation locale de longue date. Et donc, là où on a essayé de faire émerger des candidats, ça n'a pas toujours été très fructueux. Et c'est la preuve qu'il faut du temps pour pouvoir s'implanter localement. Nous l'avions toujours dit. J'espère que nous aurons, à l'issue de ce scrutin, de nombreux conseillers municipaux néanmoins.
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, merci d'avoir été en ligne avec nous sur Inter ce matin.